Qu'est-ce qui fait la force d'une église? Comment nos églises, là où elles se trouvent, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région ou dans notre pays de France, comment nos églises seront-elles des églises fortes? Il nous arrive de parler tellement de la faiblesse et des manques de l'église qu'on oublie de penser à la force qui peut être celle de l'Église. On se sent parfois si insignifiant, si marginalisé, qu'on s'excuserait presque d'être là. Il est important de rappeler sans ostentation que nous avons une place, qu'elle est la nôtre, un peu comme un arbre qui, planté, joue pleinement son rôle d'arbre. Alors c'est vrai que nos églises sont différentes. La force de l'une n'est pas la force de l'autre. Telle église semble rayonnante de santé. Telle autre ne paye pas forcément de mine, mais peut malgré tout être animée de véritables qualités. Qu'est-ce qui fait la force d'une église? C'est un beau sujet de réflexion, de méditation. Mais il nous faut veiller à ne pas y entrer, à ne pas y foncer tête baissée. Car des prudences s'imposent lorsque l'on réfléchit bibliquement à cette question de la force. Et une première prudence est de rappeler que la Bible ne parle jamais de la force du peuple de Dieu comme d'une puissance qui en impose. Lorsque Dieu choisit Abraham et lui promet de faire de lui une grande nation, Abraham est seul et dans l'incapacité d'avoir des enfants. L'acte fondateur d'Israël en tant que peuple n'est pas une grande victoire qui manifeste sa force, mais c'est une délivrance dont Israël est bénéficiaire dans une situation où le peuple était totalement à l'extrémité de ses moyens. Israël n'a jamais été une grande puissance, comme l'Égypte millénaire avec sa culture, son savoir, ou les grands empires militaires comme l'Assyrie, la Babylonie, la Grèce ou Rome. Un petit peuple, et pourtant un rayonnement. Les promesses qu'hérite le peuple qui rentre de l'exil sont adressés à un peuple qui est décrit comme humble et petit et qui trouvera son refuge en l'Éternel. Et c'est en effet dans l'humilité que Jésus lui-même paraît et choisit d'agir. Il manifeste la puissance du royaume de Dieu, mais il refuse à en faire étalage et publicité. À sa résurrection, il ne s'impose pas devant les foules comme le triomphateur. Mais il choisit l'annonce de la bonne nouvelle comme puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet évangile se répandra, bouleversera le monde entier, mais beaucoup plus à la manière d'une semence qui donne son fruit que par une institution qui en impose. Les églises du Nouveau Testament ont une vraie vitalité, mais elles n'imposent pas par leur puissance. Tout cela forme une ligne claire qu'il nous faut intégrer et prendre en compte. La force dans la Bible n'est pas une puissance qui en impose. Alors faut-il abandonner le langage de la force et glorifier la faiblesse? Nous devons résister à cette simplification, car le peuple de Dieu est toujours là, au travers des siècles, vivant, agissant. L'Évangile reste une puissance de salut, cela s'expérimente partout, tout le temps. Et le prophète Ésaïe invite à tirer encouragement du regard sur cette histoire singulière qui mêle force et fragilité. Il rappelle à son peuple, « Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse dont vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul quand je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. C'est ainsi que le Seigneur console Sion. Cette histoire singulière est une force en elle-même. On vous a tiré d'une fosse, il n'y avait rien. Abraham était seul. Et pourtant, voyez ce que cela a donné. Ça ne parle pas d'une puissance qui en impose, mais il y a une force incontestable, une force différente, une force autrement. Deuxième prudence, voilà, c'est que dans la Bible ne parle jamais de la force comme d'un acquis. C'est très intéressant de parcourir les textes qui comprennent l'expression « ma force » et de tester ce qui est dit dans ces textes-là. Et on constate une très grande réserve à évoquer leur propre force chez les hommes de la Bible. On a bien intégré l'avertissement que Dieu avait donné à Israël à son entrée en Canaan. « Garde-toi de dire en ton cœur « ma force et ma puissance » m'ont acquis ces choses. » Il y a donc une humilité de principe dans la Bible. On ne valorise pas sa propre force. Mais on sait aussi que la force est fluctuante, qu'elle n'est pas de marbre. Et les hommes de la Bible l'expriment de plusieurs manières. « Ma force se dessèche », dit le psaume 22. « Elle est épuisée », dit le psaume 31. « Elle m'abandonne », dit le psaume 38. Et à Job, le juste souffrant, est arraché cette parole pathétique qui dit « Ma force est-elle une force de pierre ? Mon corps est-il d'airain ?» Le langage biblique sur la force, sur notre force, est humble, réaliste. Il garde le sens des limites. L'homme de la Bible ne dit pas volontiers « Je suis fort », ni même « La force est en moi ». On sait que la force n'est jamais un acquis. Et pourtant, le contraste est total avec la tonalité que l'on découvre lorsque les croyants s'adressent au Seigneur pour confesser, lui, le Seigneur, comme la source de leur force. Là, l'expression se libère véritablement. L'Éternel, je t'aime, ô Éternel, ma force, dit le psaume 18. L'Éternel est ma force, mon bouclier. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je loue le Seigneur par mon chant, comme on l'a fait ce matin. L'assurance est possible aussi. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. C'est lui qui m'a sauvé. La confiance s'affirme. Le Seigneur est celui qui relèvera la force de son peuple. Là, tout d'un coup, tout se développe. Là, tout est libre. Le Seigneur est notre force. Et l'on relèvera, d'ailleurs, qu'en parlant des églises, que nulle part dans l'Écriture ou dans le Nouveau Testament, on trouve l'expression « les églises étaient fortes ». Jamais cela n'est dit. On dit « les églises se fortifiaient ». Ce n'est pas la même chose. Et on invite les chrétiens à se fortifier dans le Seigneur. À chaque fois, la perspective est dynamique. Jamais la force du peuple de Dieu n'est un état, un point d'arrivée qui permettrait de dire « ça y est, nous sommes forts ». On n'est pas fort, on le devient. La règle de la force, c'est qu'on se fortifie encore et toujours dans un renouvellement permanent et par les forces que Dieu donne. Et c'est donc cette deuxième prudence à avoir. La force n'est jamais un acquis. Troisième prudence que j'aimerais souligner est que l'invitation de la Bible est de ne pas nous laisser éblouir par les apparences, mais à considérer toujours le fond des choses. La force fascine, ébloui. Mais l'apparence extérieure est parfois trompeuse. Rappelons-nous l'exemple de Samson que Dieu a utilisé une force physique extraordinaire, impressionnante, mais une faiblesse de caractère qui le perdra. Pensons à ce colosse au pied d'argile dont le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Il était à la tête d'un grand empire et il voit dans ce rêve que ce grand empire est finalement fragile parce que les pieds sont d'argile, tout le reste a beau être de toutes sortes de métal. Les pieds sont fragiles. Et souvenons-nous du regard du Seigneur Jésus sur les églises d'Asie mineure auxquelles Jean écrit au début de l'Apocalypse. Celles qui semblent fortes ont parfois de vraies faiblesses. Et celles qui ont extérieurement peu de puissance sont désignées par le Seigneur comme véritablement fortes et fidèles. Prudence donc qu'il est bon de bien noter alors que nous réfléchissons à ce que peut être la force d'une église. Maintenant, ces prudences étant posées, comment décrire ce que pourrait être une église forte? Je vous propose trois images et une perspective complémentaire. La première image est l'image de la santé. Une église forte est une église en bonne santé. Et pourquoi pas une église rayonnante de santé. La santé est fondamentalement le bon fonctionnement d'ensemble d'un organisme. La santé de quelqu'un ne se lie pas à un seul facteur. C'est toujours une question d'équilibre et d'harmonie entre plusieurs organes et une question d'ajustement mutuel entre ces organes. Cet équilibre varie en fonction de ce qui est demandé à l'organisme. Mais c'est cet équilibre qui constitue le fondement de la force vitale d'une personne. Alors, quels seraient les piliers de la santé d'une église? Ils sont connus. Ils nous sont indiqués, me semble-t-il, dans les premières descriptions de l'Église, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 42. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Il me semble que nous avons là les éléments de base de la santé d'une Église. Un enseignement fidèle, une nourriture solide, équilibrée, tirant toute sa sève de la parole de Dieu, fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle enseigne, tout le conseil de Dieu, pour la vie personnelle, pour la perspective de l'Église, pour le salut, pour la perspective du monde. Un enseignement fidèle. La communion fraternelle, avoir part ensemble au Christ, au Saint-Esprit, être unis par l'Évangile et pour l'Évangile, vivre cela dans de vraies relations aimantes, sincères, accueillantes les uns avec les autres, manifestant l'amour du Christ, la communion fraternelle, la centralité de la croix, de la grâce, de ce qui nous est donné en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on peut rendre compte de la fraction du pain, la Sainte Cène, qui est le rappel régulier que tout ce que nous sommes, nous le devons à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et célébrer la scène, c'est nous rappeler toujours et encore que si nous sommes là, c'est parce que nous avons reçu cette grâce en Jésus-Christ. Si nous pouvons faire église ensemble, c'est parce que les uns les autres, nous avons un même accueil auprès du Père, parce que nous sommes pardonnés et parce que nous avons là un message à annoncer. Et puis les prières, le lien, la relation vivante avec le Seigneur lui-même. Et je me permets de souligner l'importance du pluriel. Il persévérait dans les prières. L'Église a besoin de toutes les formes de prières, la louange, l'intercession, la reconnaissance, la consécration, la demande de pardon, l'adoration. Elle a aussi besoin des prières de beaucoup, prières communes, individuelles, par groupe, par binôme, 1000 heures de prière. Persévérer dans ces différents aspects. Ce sont vraiment là les fondamentaux d'une église. C'est à partir de là que tout peut s'élaborer. Et ces fondamentaux, une église qui veut être forte doit les développer, les travailler, toujours à nouveau. C'est incontournable. C'est comme dans le sport. Chaque discipline a ses fondamentaux qu'il faut reprendre, cultiver. Et c'est à partir de là seulement qu'on construit des performances. Vouloir des performances ou des coups d'éclat sans les fondamentaux, c'est aller à l'échec. C'est faire des ruptures musculaires, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Une église forte entretient ses fondamentaux. Et j'aimerais vraiment nous encourager les uns les autres dans ce sens. Tout ce que nous faisons régulièrement, dans ces domaines, a une valeur immense pour la force, pour la santé de notre Église. Ce n'est pas forcément là qu'on éprouvera toujours le grand frisson, mais c'est la base, ce qui conditionne tout le reste. En même temps, il faut souligner que les manquements à ces fondamentaux sont des manques sérieux. Ils affaiblissent l'Église en ses fondements mêmes. Et là aussi, il nous faut adopter un juste regard. Nous croyons parfois qu'il ne faut surtout pas manquer les grands moments de la vie d'une Église, le reste étant plus secondaire. Certains sont les champions toutes catégories des grandes occasions. Quand il y a une grande occasion, on se donne à fond, Mais ensuite, dans le régulier, c'est pas aussi sûr que ça. Agir comme cela, c'est aider d'un côté, bien sûr, mais c'est aussi un peu affaiblir de l'autre. Une grande soirée d'évangélisation, un grand moment, comme ce qu'on a vécu hier soir, dans laquelle tout le monde est à bloc, doit être suivi de fidélité régulière. L'accueil des personnes, l'amour pour les accompagner, la prière pour les uns, pour les autres, la persévérance pour les aider à grandir. Et le vrai niveau de la force d'une Église se retrouve là, dans les régularités. Et il est important pour nous de bien articuler ensemble les régularités et les grands et beaux moments de la vie d'une Église. Cultiver nos fondamentaux, entretenir nos fondamentaux pour pouvoir aussi faire de belles choses qui décoiffent, qui nous font du bien. Mais si on parle de la santé d'une Église, il faut rappeler également que la santé est un équilibre qu'il faut préserver de ce qui la menace. Pour l'Église comme pour notre corps, il existe des virus dévastateurs, contagieux, la médisance, l'esprit de jugement, les rivalités. Il existe aussi des foyers d'infection, l'amertume, le refus de pardonner, l'esprit de découragement. Il peut y avoir des blessures, l'inconduite, la calomnie. Il peut y avoir des faiblesses, le chacun pour soi, le manque de consécration, la légèreté. La force, la santé d'une Église, c'est aussi de veiller à ces choses-là. Veiller sur nous-mêmes, sur nos attitudes, sur ce qui pourrait être source d'infection ou d'affaiblissement de notre Église. Et je crois qu'il faut dire là aussi que comme dans bien des affaires de santé, la vigilance préventive est ici le meilleur remède. Il faut parfois tellement d'énergie pour réparer, alors qu'un peu d'attention avant, les dégâts auraient évité bien des peines. Sachons en tout cas que chacune de nos vigilances à bien faire, à être positif au sein de notre Église, contribue réellement à la force, à la santé de notre Église. Première image donc, la force comme étant la santé d'une Église. Deuxième image de la force de l'Église me semble-t-il ressemble à la force du montagnard. Alors, les Pyrénées ne sont pas loin, Mais nous savons que il y a aujourd'hui toutes sortes de moyens pour atteindre des hauteurs sublimes. On peut atteindre aujourd'hui le sommet du pic du Midi et bénéficier de sa vue exceptionnelle sans le moindre effort. Il suffit de se laisser porter par le téléphérique qui vous prend tout en bas et qui vous dépose tout au sommet. Et bien des personnes imaginent ainsi la force d'une église, la puissance de vous transporter sans effort et à coup sûr vers les sommets. Et on cherche comme ça toutes sortes de téléphériques qui vous amènent sur les sommets sans le moindre effort. L'église cocon qui vous enveloppe et qui vous porte sur les hauteurs. La musique qui vous fait atteindre les sommets. Le leader qui décoiffe complet. Le nouveau modèle d'église qui a fait un tabac ailleurs. Le téléphérique. On en cherche si facilement des téléphériques qui nous portent et qui, sans effort, nous conduisent sur les hauteurs. Le montagnard, lui, a une autre expérience de la montagne et des hauteurs. La montagne, il la gravit telle qu'elle est, avec son relief, avec ses obstacles, avec ses passages exigeants, ses moments reposants aussi. Il est parfois à la limite de ses forces et doit puiser dans son courage pour continuer, trouver un second souffle peut-être. Mais quelle joie, quel bonheur en même temps que de marcher là-haut, que de bienfaits acquis pendant la marche, en se colletant à la réalité du terrain, on découvre tellement. Une église forte n'est pas une église téléphérique, mais une église qui cultive l'esprit du montagnard. Dans l'Écriture, la force est souvent associée à la persévérance, à l'endurance. Et on sait que les montagnes saintes, elles se gravissent à pied, tout comme le Seigneur Jésus l'a fait, étape après étape, en montant vers Jérusalem, tout au long de son ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je tirerai deux leçons de cette image. D'abord, que la force d'une église ne nous fait pas tout survoler. C'est au contraire une force qui se vit au contact de la réalité, d'une réalité que l'on éprouve pleinement, telle qu'elle est. Rappelons notre Seigneur Jésus, à certains moments donnés, il lui a fallu fortifier son visage pour continuer. C'est dit dans Luc 9, verset 51, Jésus durcit son visage de volonté pour continuer, pour aller vers Jérusalem. À Gethsémané, on l'a chanté, Jésus a dû garder le cap, a dû être fortifié lui-même pour pouvoir affronter l'épreuve de la croix qu'il voulait subir pour nous. Jésus n'a pas tout survolé, loin de là. Et les églises du Nouveau Testament ont vécu aussi des choses semblables. La plupart des églises fondées par l'apôtre Paul ont vu l'apôtre devoir les quitter bien avant le temps souhaité, à cause des oppositions. Elles ont pris ça de plein fouet. Mais ce sont ces églises-là dont il est dit qu'elles se fortifiaient dans la foi. Une église forte n'est pas insensible aux variations du terrain. Une église forte n'est pas une église qui trace son chemin comme un bulldozer sans état d'âme. On peut être touché par ce qui survient. Mais avec la force de Dieu, on continue à avancer. On continue à se ressourcer auprès de Dieu. Et c'est ainsi que l'on avance courageusement, pas à pas, accompagné par le Seigneur, qui est vraiment un Dieu de route. Vous avez déjà vécu dans votre vie d'église des moments comme ça, qui étaient des moments de tension, et qu'il a fallu assumer, et dont on tire force après, parce que l'on découvre vraiment que le Seigneur est là et qu'il nous accompagne. C'est ainsi que nous sommes appelés à avancer. Mais en même temps, la force du montagnard n'est pas seulement une force courage, une force d'exigence. C'est aussi une force joyeuse qui aime la marche, qui aime ce contact vrai avec les choses. Ce contact est tantôt âpre, tantôt gratifiant. Mais un montagnard ne cesse de découvrir, d'apprendre, de se fortifier et d'avoir une joie dans la marche. Un objectif atteint, une difficulté vaincue, devient une expérience qui donne plus de force, plus de courage pour se lancer plus loin. On capitalise ce que l'on a vécu et c'est ainsi que qu'on est rendu plus fort. C'est comme le dit le psaume 84 qui parle de ces pèlerins qui marchaient vers Jérusalem. Et il a dit, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Une église forte est une église qui se souvient de ce que Dieu a fait pour elle, qui prend confiance lorsqu'elle constate que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et ce jusqu'ici est vraiment un présage pour l'avenir et s'il permet d'avancer sereinement, joyeusement. La force de l'Évangile est une force qui renouvelle, une force de sérénité. Et je prie que vous puissiez vraiment découvrir encore et encore cette force. Troisième image de la force de conquête. Les églises fortes sont des églises qui s'étendent et qui grandissent. Et dire cela, c'est rappeler que la force ne se cultive pas pour elle-même, mais elle a du sens que pour l'action, pour la réalisation du plan de Dieu, pour l'extension du royaume de Dieu. Et c'est l'un des aspects que souligne le livre des Actes lorsque Luc décrit les églises de Galatie dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Ces premières églises de la route vers des nations. Et Luc a ces mots de témoignage qui sont en même temps un encouragement. Les églises, dit-il, se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Il y a là deux affirmations. L'indicatif, les églises se fortifiaient dans la foi. Et deuxièmement, l'affirmation de la croissance en nombre de ces églises. Quel est le lien entre la force des églises et la croissance? On pourrait être tenté de faire un lien de succession en disant les églises se fortifiaient dans la foi et une fois qu'elles étaient assez fortes, elles ont pu augmenter en nombre de jour en jour. Faire cela, c'est faire une mauvaise lecture et surtout avoir une mauvaise attitude. Car s'il nous faut attendre d'être ou de nous sentir assez forts, assez armés, assez au point pour témoigner de l'Évangile, nous ne le ferons jamais. Nous resterons, comme certains, en salle de musculation, à développer chaque petit muscle sans jamais sortir. Parce qu'on n'est jamais suffisamment au top. La règle biblique est différente. C'est « va avec la force que tu as. Je serai moi-même avec toi. » Autrement dit, une église ne se fortifie pas en attendant d'annoncer l'Évangile, mais elle se fortifie en annonçant l'Évangile. On ne se fortifie pas en attendant d'être assez fort pour agir, on se fortifie dans l'action pour le Seigneur et pour l'extension de son royaume. Et l'apôtre Paul l'exprime dans la prière que nous avons lue tout à l'heure à l'église de Thessalonique, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même encourage vos cœurs et vous fortifie en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. En toute bonne œuvre. Ce n'est pas, dans l'original, en vue de toute bonne œuvre. Ce n'est pas pour toute bonne œuvre. Mais c'est par le moyen de toute bonne œuvre. Dans la réalisation même de toute bonne œuvre. C'est dans l'action mise en œuvre que l'on se fortifie. Et c'est un autre principe concernant la force. Le Seigneur a choisi de donner son soutien à ceux qui s'engagent pour lui, à ceux qui tentent, à ceux qui osent. C'est lorsque l'on proclame l'Évangile que s'atteste la puissance de Dieu pour sauver, pour transformer des vies. C'est là qu'apparaît la valeur, la beauté du message que nous portons. Il est cette bonne nouvelle, la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Savoir que Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ, nous rejoindre là où nous étions. Savoir que Dieu s'est solidarisé avec nous, en allant jusqu'à prendre sur lui notre condamnation que nous méritions. Savoir que Dieu veut nous apporter une vie nouvelle par sa présence vivante en nous, par son action en nous. Savoir que Dieu veut nous ouvrir des horizons nouveaux, la vie éternelle, un monde nouveau. Et savoir que tout cela, ce n'est pas un rêve, mais que Dieu l'a réalisé, l'a attesté, car Christ est mort et ressuscité. La meilleure nouvelle qui puisse arriver à quiconque. Et Dieu donne son soutien à ceux qui portent cette nouvelle. Et porter cette nouvelle, c'est en être saisi toujours et encore, voir son action. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. La force de conquête, parce que l'Évangile est une force, une telle belle nouvelle. Je termine par une dernière remarque, une dernière note, pour souligner la force qu'apporte la communion et la solidarité entre églises. Les églises du Nouveau Testament ont été des églises solidaires. Et les apôtres ont veillé à ce que des liens existent et se développent, s'étoffent au sein du peuple de Dieu. Les églises d'Asie mineure dont nous avons parlé ont été créées et fortifiées grâce au ministère de Paul et Barnabas, qui avaient été envoyés par l'église d'Antioche. L'évangile les a atteints grâce à cette solidarité. L'église de Philippe, ensuite, a été partenaire de l'œuvre missionnaire de Paul par un soutien régulier qu'elle lui apportait. Les autres églises ont été au bénéfice de cette solidarité, de cette part que prenait l'église de Philippe à l'évangile. Paul a toujours travaillé en équipe. Les équipes autour de Paul étaient constituées de gens qui étaient issus de différentes églises aussi. Si bien que c'était chaque fois une sorte de délégation des églises qui étaient là pour prêcher l'évangile, faire annoncer les choses. Lorsque les chrétiens de Jérusalem ont été en difficulté, les églises d'origine non-juive se sont unies pour les soutenir par une collecte qu'ils appelaient une communion. Une communion. Régulièrement, des nouvelles étaient échangées, des salutations données dans les lettres par les apôtres, par les personnes aussi qui portaient les lettres. Toutes ces églises étaient très reliées dans la solidarité. Une petite église comme Colosse, qu'on connaît par l'épître aux Colossiens, c'était toute une petite ville au fond d'une vallée d'Asie mineure. Cette petite église se savait reliée à bien d'autres églises. Aristarque de Thessalonique la salue. Marc, originaire de Jérusalem, va certainement être envoyé vers elle. Et Justus, un juif converti de Corinthe, la salue aussi. Il y a là, pour cette petite église, qui serait toute seule autrement, tout un réseau de communion, de connaissances, de prières, de visites, de soucis mutuels. Et lorsque cette petite église se trouve menacée par un faux enseignement, eh bien plusieurs viennent l'aider. Paul fait le travail théologique, Aristarque et Marc prennent le relais de la communion, Epaphras s'engage à fond dans la prière. Une mobilisation commune pour une église qui autrement aurait été loin de tout, démunie théologiquement, ébranlée dans sa fidélité à l'évangile. Alors les églises du Nouveau Testament n'ont pas développé de superstructures au-dessus des églises, mais elles ont vécu d'une manière très concrète, une vraie solidarité, une communion enrichissante, des partenariats pour l'Évangile. Et il y a là aussi une vraie force, à l'image de ces quatre hommes qui, dans l'Évangile, ensemble, prennent à cœur leur ami handicapé, surmontent toutes sortes d'obstacles, défront même un toit pour descendre cette personne auprès de Jésus. La force de la solidarité. C'est donc vers cette force à plusieurs visages que le Seigneur lui-même nous invite, que l'Écriture nous invite à tendre. Une force donc qui veille sur ses fondamentaux. Une force qui se colle à la réalité. Une force qui ose entreprendre pour l'Évangile. Une force dans la solidarité du peuple de Dieu. Et les ressources de cette force, nous ne les possédons pas à nous-mêmes. Mais comme la Bible aime le souligner, le chanter, en rendre témoignage, c'est du Seigneur, l'autre Dieu, que viennent la richesse et la gloire. C'est lui qui domine sur tout. C'est dans sa main que se trouve la force et la puissance. Et c'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Que le Seigneur soit notre force, soit votre force, et qu'il nous permette, si c'est son beau projet, de vivre et d'expérimenter cette force dans la solidarité du peuple de Dieu. Amen.